Radio Prague, les informations.
Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, les titres. La République tchèque a décidé mardi de renforcer les mesures de protection contre la grippe aviaire. Le cabinet tchèque souhaite que les pays de l'Union européenne prennent une position commune dans l'affaire des caricatures de Mahomet. Et la compagnie aérienne à bas prix Sky Europe va opérer à l'aéroport de Prague à partir du 10 avril prochain. La République tchèque a donc décidé mardi de renforcer les mesures de protection contre la grippe aviaire, alors que le virus H5N1, dans sa forme transmissible à l'homme, a été identifié sur deux cygnes morts dans le sud de l'Autriche. Quelques heures après l'annonce de ces deux cas, le comité central des infections a demandé aux éleveurs professionnels de confiner leurs volailles. Les éleveurs doivent aussi prendre toutes les mesures pour éviter les contacts avec les oiseaux sauvages et prévenir les autorités vétérinaires en cas de symptômes douteux ou de décès inhabituels sous peine de lourdes amendes. L'interdiction de transporter des oiseaux sur les marchés ou les expositions qui avaient expiré en décembre a été réactivée. Le cabinet tchèque, qui s'est déclaré ce mercredi solidaire du gouvernement danois, souhaite que les pays de l'Union européenne prennent une position commune dans l'affaire des caricatures de Mahomet. Le ministre des Affaires étrangères, Tirid Svoboda, veut même proposer à l'Union européenne de compenser l'impact économique de cette affaire en signe de solidarité avec les autorités danoises. Le cabinet a prié le chef de la diplomatie de proposer une réunion extraordinaire aux autres membres de l'Union européenne pour discuter du sujet avec ses homologues. La compagnie aérienne à bas prix Sky Europe va opérer à l'aéroport de Prague-Losinje à partir du 10 avril prochain. 40 vols par semaine avec les deux appareils de la compagnie devraient relier Prague à 7 destinations, Amsterdam, Barcelone, Milan, Naples, Nice, Paris et Rome. Le Premier ministre Jiří Paroubek a indiqué que Prague allait restituer à la Russie un tableau précieux du peintre russe Ivan Nikolaevitch Kramskoy à l'occasion de la prochaine visite à Prague du président russe Vladimir Poutine. Ce tableau, intitulé « Tête de paysan » du célèbre portraitiste russe, avait été volé lors de la Seconde Guerre mondiale par des soldats allemands dans un musée en Crimée. Par le biais d'une collection privée, il était devenu ensuite propriété de la galerie Morave à Brno. On termine ce bulletin avec la météo, les températures remontent, mais le ciel restera couvert sur une bonne partie du pays. De la pluie en plaine et de la neige à partir de 500 mètres d'altitude, avec des températures entre 2 et 6 degrés. Ce sont les prévisions pour la journée de jeudi, jour de fête des Ljuba en République tchèque. Merci à toutes et à tous de votre attention. Dans un instant, la suite de notre programme en français.
Faits et événements en République tchèque. Magda Segertova.
Merci d'écouter Radio Prague. Dans ce journal, nous ferons le point sur la visite du Premier ministre tchèque Jiří Paroubek en Afrique du Nord. Nous parlerons ensuite des mesures adoptées contre la grippe aviaire en République tchèque. Vous entendrez le chorégraphe Jean-Pierre Aviot qui a créé un spectacle à la lanterne magique de Prague. En sport, le début du tournoi de hockey sur glace pour les Tchèques aux Jeux Olympiques d'hiver de Turin. Le chef du gouvernement tchèque Jiří Paroubek a effectué du 12 au 14 février une visite en Tunisie et au Maroc. Accompagné par plusieurs dizaines de chefs d'entreprise tchèques, il a placé le volet économique au cœur des discussions avec les hauts représentants tunisiens et marocains. Car pour faire progresser les échanges commerciaux actuellement plutôt faibles, il faut tout d'abord jeter les bases sous la forme de nouveaux accords entre Prague et ses partenaires nord-africains. Un défi que les représentants des trois pays veulent relever d'ici à non. Dans ce cadre s'inscrivent les prochaines visites des dirigeants et hommes d'affaires tunisiens et marocains en République tchèque, dont le calendrier vient d'être précisé par Jiří Paroubek. Une importante délégation d'entrepreneurs marocains est attendue à Prague en mars prochain et à l'automne 2006, c'est le chef du cabinet tunisien Mohamed Ghanouchi qui sera accueilli à son tour dans la capitale pour poursuivre le dialogue entamé avec son homologue tchèque à Tunis, Mohamed Ghanouchi.
Les discussions que j'ai vues avec mon collègue le Premier ministre nous ont permis d'identifier un certain nombre d'orientations susceptibles de donner un nouvel élan à nos relations. Et nous sommes confiants sur notre capacité à mettre en œuvre ces orientations au cours des prochaines années. Parmi ces orientations, la mise à jour des différents accords qui ont été conclus avant 1997, de façon à prendre en compte les nouvelles données, L'encouragement des hommes d'affaires à se rencontrer périodiquement de façon à pouvoir identifier les possibilités d'affaires entre les deux parties. L'encouragement aux investissements. Nous serons aussi également, nous encourageons les entreprises tchèques à mieux connaître les possibilités d'investissement en Tunisie, à mieux connaître les différents marchés qui vont être lancés au cours des prochains mois, de manière à pouvoir y participer et pourquoi pas ne pas avoir des marchés en Tunisie. Nous sommes très heureux qu'une entreprise tchèque ait pu avoir un grand marché. Il s'agit de la construction de la cité, du complexe culturel à Tunis. Et j'espère que d'autres entreprises tchèques auront la possibilité d'avoir des marchés similaires. Vous avez un Premier ministre jeune, dynamique, plein de volonté, qui, je pense, il est totalement déterminé à renforcer les relations avec la Tunisie. Et sur ce plan, nous le rejoignons totalement.
Mohamed Ghannouchi. La Tunisie, dont l'économie est en plein essor, comme l'a constaté le Premier ministre Paroubek, représente pour la Tchéquie un terrain encore inexploité. Il a évoqué plusieurs domaines dans lesquels les entreprises nationales pourraient mettre en valeur leur savoir-faire, par exemple dans la construction de centrales électriques, de stations d'épuration des eaux usées, de brasseries, l'exportation d'usines complètes ou d'hôpitaux.
Jestli něco spojuje Maroko a Českou republiku, tak je to především ta schopnost provádět.
À Rabat comme à Tunis, le Premier ministre tchèque a mis en avant la politique réaliste et modérée appliquée par le Royaume du Maroc et la Tunisie, une politique qui les rapproche d'après lui de la République tchèque. Et ce rapprochement a toutes les chances de continuer. La preuve en est par exemple que le Maroc vient de s'engager à soutenir la candidature de la République tchèque en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour les années 2008-2009. Par rapport à la Tunisie, le royaume présente quelques spécificités pour la République tchèque. Réputé pour sa beauté et sa culture, il n'est pourtant visité que par 4000 Tchèques contre environ 150 000 vacanciers qui se rendent chaque année en Tunisie. Et ce n'est pas pour rien que Jiří Paroubek a évoqué le royaume en parlant de terre inconnue, même pour la représentation politique tchèque, une image qui devrait, comme l'espèrent les deux parties, évoluer, grâce entre autres à la future percée des entreprises tchèques sur le marché local. Écoutez à ce propos le Premier ministre marocain Driss Getou.
Le Maroc est un grand chantier ouvert. Il y a des possibilités pour les entreprises tchèques dans tous les domaines. Monsieur le ministre a insisté, le Premier ministre a insisté beaucoup sur tout ce qui est transport, tramway, métro, chemin de fer, transport urbain. Il y a des possibilités ici au Maroc. Il y a des programme extrêmement important dans la ville de Rabat, comme dans la ville de Casablanca et partout ailleurs. Nous espérons voir les entreprises tchèques venir développer avec nous ces secteurs.
Le chef du gouvernement marocain, Driss Getou. La grippe aviaire, après la détection de son virus en Grèce et en Italie, s'est encore plus rapprochée de la République tchèque. Elle est apparue chez ses voisins directs, l'Autriche et l'Allemagne. Quelles sont les mesures de prévention adoptées par les autorités tchèques? Alain Slivanski.
La réaction a été rapide en République tchèque. Mardi, la commission centrale de contamination s'est réunie et a décidé d'instituer de rigoureuses mesures de prévention. Le porte-parole de l'administration vétérinaire nationale, Josef Duben, a indiqué que ces mesures entraient en vigueur à partir du 15 février à minuit et a précisé.
Les éleveurs doivent tenir leurs animaux dans des élevages fermés qui ne sont donc pas en plein air. Ils doivent aussi empêcher l'intrusion de volatiles vivant librement dans la nature, ce qui veut dire qu'ils doivent installer des filets ou des grillages sur toutes les ouvertures des bâtiments d'élevage. À partir du 1er mars, les marchés, les expositions, les concours et autres sont interdits.
Des exceptions pourraient être délivrées par les administrations vétérinaires régionales dans les cas où l'éleveur sera en mesure d'empêcher l'accès des volatiles sauvages aux mangeoires et abreuvoirs de son élevage. Les mesures de prévention concernent dans les 700 élevages industriels, mais pas les petits éleveurs privés. Pourtant, le ministre de l'Agriculture, Jan Mladek, leur conseille. Je voudrais appeler tous les citoyens qui élèvent des volailles à se conduire comme les grands producteurs, donc à confiner leurs élevages dans des bâtiments et à empêcher leur contact avec des volatiles sauvages. Les mesures de prévention seront certainement les plus difficiles à respecter pour les éleveurs d'oies et de canards, car ces volailles ne supportent pas d'être enfermées toute la journée. En Allemagne, par exemple, les oies peuvent sortir quelques heures pendant la journée dans le cas de telles mesures de prévention. Les éleveurs de canards sauvages et autres volatiles aquatiques pourraient aussi rencontrer des problèmes. La prévention concerne aussi les camions arrivant de l'étranger et transportant des animaux, surtout des volatiles. Les contrôles seront beaucoup plus rigoureux. Rappelons que depuis la fin du mois d'octobre, la Tchéquie, comme les autres pays de l'Union européenne, a interdit les importations d'oiseaux exotiques des pays qui ne sont pas membres, tout comme de la volaille, des oiseaux et autres produits risquant d'être contaminés par le virus de la grippe aviaire, des pays où ce virus a été détecté. Le directeur du service national d'hygiène, Michael Witt, affirme « Il n'y a aucune raison de paniquer, car les conditions d'hygiène sont meilleures en Europe qu'en Asie ». Mais nous devons être prêts, car le virus pourrait devenir transmissible chez l'être humain, bien que cela n'ait pas été démontré depuis 1997.
Que s'est transformée mardi soir la scène du théâtre Laterna Magica, Lanterne Magique, où a été présentée la première tchèque du spectacle intitulé Rendez-vous. Il s'agit d'une coproduction du théâtre pragois et de l'ensemble français La Compagnie Comme un Instant. L'idée, la chorégraphie et la réalisation de cette production sont signées Jean-Pierre Aviot, chorégraphe français qui connaît bien l'ensemble de Laterna Magica, pour avoir créé pour ce théâtre plusieurs spectacles. À l'issue de la représentation de mardi, il s'est entretenu avec Václav Richter sur les particularités de sa dernière production.
Votre spectacle de ce soir s'appelle Rendez-vous. Pourquoi rendez-vous ? Rendez-vous avec qui ?
C'est le rendez-vous d'un matador avec son ultime combat, son ultime corrida. Il est attendu par la mort. La mort est là et l'attend dans l'arène. Alors pourquoi la corrida ? Quand j'ai assisté une fois à une corrida, à une feria à Valence en Espagne, j'ai été admiratif du courage des matadors, parce que ce sont des hommes certainement très très courageux pour aller dans l'arène. Et puis ensuite j'ai vu un ballet avec un taureau, un animal représentant la force, un matador représentant la séduction. Et puis dans la tauromachie, il y a deux formes de tauromachie. Il y a des matadors qui tauraient avec des capes ou avec des muletas. Et quand on tourait avec la cape, on se rend compte qu'on a une espèce de personnage féminin, une espèce de danseuse qui est là, entre cette force et cette séduction. Et les deux convoitent cette féminité. C'est un moment merveilleux.
Où avez-vous trouvé les artistes de ce spectacle ?
Alors, certains artistes de ce spectacle sont des gens qui travaillent avec moi dans ma compagnie depuis plusieurs années. Donc, il y a un groupe d'artistes chorégraphiques voués à l'acrobatie qui m'accompagne. Il y a une danseuse qui est une danseuse qui s'appelle Susan Bilkova, qui est d'origine tchèque et qui travaille dans ma compagnie aussi. Et puis le reste de l'effectif sont des gens du théâtre de la Lanterne Magique.
C'est une première tchèque, mais le spectacle a été déjà donné en France, n'est-ce pas ?
Oui, le spectacle a été créé en août 2005 à Cathédrale d'Images au Beau-de-Provence. Alors il faut savoir que Cathédrale d'Images est un lieu où on fait de l'image totale. Et ce lieu a été inspiré par le travail de Joseph Svoboda. Et Albert Plessis, fondateur de Cathédrale d'Images, a créé un lieu d'image totale dans des anciennes carrières de calcaire. Donc il y a des images énormes dans lesquelles on a des perspectives très très impressionnantes, des images qui dépassent les 25 mètres de haut. Enfin c'est toute une grosse mise en scène d'images qui est produite là-bas. Et il n'avait pas de spectacle vivant. Et on s'est rencontrés et en même temps je trouve que ce qui est merveilleux, on s'est rencontrés, notre compagnie s'est établie dans ce lieu, donc c'est notre théâtre, notre lieu de création. Et ce qui est merveilleux c'est d'avoir uni ces deux éléments, c'est-à-dire la Lanterne Magique et Cathédrale d'Images, qui étaient l'un a inspiré l'autre et ils ne s'étaient jamais rencontrés. Donc c'est aussi le rendez-vous de ces deux infrastructures.
À Prague, le spectacle s'est joué dans les conditions bien différentes. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat ?
Alors à Prague, c'est vrai qu'on a adapté, puisque Cathédrale d'Images est un lieu brut dans lequel on utilise deux scènes. Ici, on est dans une configuration complètement différente, une scène normale, une scène traditionnelle. Donc il a fallu adapter, certes, le spectacle. Et ce qui était le plus dur à retrouver, c'était un univers de mystère, parce qu'à Cathédrale d'Images, le mystère existe par nature, il est acquis. C'est un lieu pharaonique, on va dire, vraiment. Et ici, bon, ben, il a fallu, à l'aide d'une scénographie, pouvoir justement recréer tout le mystère qu'on avait là-bas.
Après la médaille d'argent obtenue dimanche par Kateřina Neumannová dans l'épreuve de poursuite en ski de fond, les Tchèques restent en attente de nouvelles sensations fortes à Turin. Mardi, il n'a certes manqué que 33 centièmes de seconde à Andrej Bank pour monter sur la troisième marche du podium du combiné de ski alpin, mais dès mercredi, toute l'attention du pays s'est reportée sur l'entrée en piste de l'équipe de hockey sur glace dans le tournoi olympique. Guillaume Narquet.
Les hockeyeurs sont arrivés en Italie. Qui gardera le but? Robert Lang, désigné capitaine, ou encore Jäger, leader de l'équipe de rêve. Les titres qui fleurissent depuis quelques jours à la une des journaux pragois, spécialistes de sport ou non, ne laissent place à aucun doute. Comme de tradition, pour beaucoup de Tchèques, les Jeux Olympiques d'hiver démarrent véritablement avec le coup d'envoi du tournoi de hockey sur glace. Les performances de Kateřina Neumannová en ski de fond, de Nikola Sudova en ski acrobatique, de Martina Sablikova en patinage de vitesse ou de Jakub Janda en saut à ski ont certes été suivies jusqu'ici avec intérêt par le public. Mais cela n'en demeure pas moins sans commune mesure avec la fièvre que font naître les hockeyeurs. Cette passion pour le jeu est accentuée par le fait que depuis Nagano en 1998, les meilleurs joueurs de la NHL, la célèbre ligue nord-américaine de hockey, prennent part à la compétition. Du coup, l'équipe qui remporte l'or olympique peut être considérée comme la meilleure au monde jusqu'au jeu suivant. Cet exploit, les Tchèques l'avaient réalisé justement au Japon pour ce qui avait alors été pompeusement baptisé le tournoi du siècle. À l'époque, à travers toute la République, des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans les rues pour célébrer la victoire. Et la place de la vieille ville à Prague, noire de monde, avait réclamé de voir le gardien de but Dominik Hašek remplacer Václav Havel au château de Prague. À l'inverse, en 2002, à Salt Lake City, les Tchèques s'en étaient rentrés chez eux la crosse entre les jambes, vaincus par la Russie en quart de finale, abandonnant leur couronne au Canada et plongeant tout un peuple dans la tristesse. En Italie, les partenaires de l'attaquant Jaromír Jágr, que beaucoup désignent comme le meilleur joueur au monde actuellement, n'auront donc que d'autres objectifs que la reconquête de leur trône. Après l'Allemagne, mercredi en fin d'après-midi, pour leur premier match dans le tour éliminatoire, les Tchèques affronteront successivement la Suisse, la Finlande, l'Italie puis le Canada, avant le quart de finale crucial pour la suite de l'épreuve mercredi prochain. Mais d'ici là, Kateřina Neumannová et Jakub Janda auront également peut-être fait vibrer les Tchèques.
C'était Fais événements en République tchèque par Magdalena Segertová. Merci de votre attention et bonne écoute de la suite de notre programme.
Chapitre de l'histoire tchèque. David Allon.
Actuellement se tient dans la maison à la cloche de pierre à Prague une exposition sur la caricature tchèque de 1900 à 1950. L'humour a toujours joué un rôle crucial dans l'histoire tchèque et plus particulièrement dans les moments difficiles. Pas étonnant donc que la caricature représente une véritable tradition dans le pays. De 1880 à 1914, l'Europe connaît son âge d'or de la caricature. Que ce soit en France ou en Bohême, elle s'exprime par une grande expressivité humoristique qui utilise souvent la violence du trait. L'un de ses plus illustres représentants dans l'Hexagone est un Tchèque, František Kupka. Né en 1871 à Opočno, en Bohême orientale, très tôt orphelin, il s'installe à Paris en 1896 après être passé par l'école des Beaux-Arts de Prague. Pour survivre, il réalise des affiches pour les cabarets de Montmartre, mais aussi de nombreuses caricatures. Entre 1900 et 1912, il fréquente les milieux anarchistes. Précisons qu'à ce moment, la violence anarchiste, qui a culminé en 1894 avec l'assassinat du président Sadi Carnot, est bien retombée. Les attentats des années 1890 ont convaincu de nombreux militants de se détourner de l'action violente. Kupka lui-même est loin d'être un fanatique, mais sa participation à des revues anarchisantes démontre bien son intérêt pour les idées libertaires et sociales. De 1901 à 1907, il s'illustre comme un brillant caricaturiste dans Les Temps Nouveaux de Jean Grave et surtout dans L'Assiette au beurre. Dans ses dessins, il s'en prend à une société inégalitaire où l'argent règne en maître. Il fustige aussi les guerres coloniales et les passions nationalistes. La religion figure aussi en bonne place parmi les sujets abordés. Il dénonce ainsi l'abrutissement lié au fanatisme religieux. Pour Andrzej Chobak, organisateur de l'exposition actuelle sur la caricature tchèque, František Kupka visait, plus que la religion elle-même, l'Église en tant qu'institution. Parmi les thèmes les plus fréquents figure l'accusation de tentatives de contrôle et de manipulation sur le peuple. Après la guerre, František Kupka laissera de côté la caricature pour renouer avec la peinture. Mais il aura inauguré une grande tradition de la caricature tchèque qui atteint une certaine maturité sous la Première République tchécoslovaque dans l'entre-deux-guerres. Avec la montée des idéologies, la caricature tchèque se politise dans les années 30. En janvier 1934, un groupe d'artistes allemands exilés de l'Allemagne nazie sort à Prague le premier numéro de Simplicus, hebdomadaire satirique. Composé également de nombreux artistes tchèques, Simplicus devient un pôle majeur de lutte contre le danger national-socialiste. Ses armes, l'humour, l'ironie et la satire. On compte parmi ses signatures les caricaturistes Antonin Peltz et Adolf Hofmeister. Le thème du corps, qui revient souvent au long des publications, est d'abord un prétexte pour s'éloigner de l'esthétique nazie basée sur la virilité et la masculinité. Il permet aussi, par l'évocation de relations entre nations et religions différentes, de lutter contre les mythes racistes si puissants dans les années 30. C'est avec une ironie savoureuse que František Bidlo donne dans Simplicus sa définition du mâle arien idéal, blond comme Hitler, mince comme Göring, bien bâti comme Goebbels et masculin comme Rome. En 1934 se tient dans la galerie Manesht à Prague la première exposition internationale de caricatures où les préoccupations contre la montée du fascisme prédominent. En 1939, Simplicus change de nom pour devenir Le Simple. Malgré la guerre et l'occupation allemande, la revue maintient un temps ses activités, mais ses auteurs sont pourchassés. Adolf Hofmeister, qui parvient à s'échapper de la Gestapo, s'exile aux États-Unis après un bref séjour par la prison de la Santé à Paris. Dans le recueil « Touriste malgré soi », écrit en 1941, il dessine de féroces dessins contre le système nazi. Après le coup de Prague en 1948, la revue sera censurée. Il faudra attendre les années 60 pour que quelques caricatures réapparaissent timidement dans le paysage artistique tchèque. Surtout, les revues littéraires se font alors l'écho du second âge d'or de la caricature qui voit en France l'éclosion de journaux comme Charlie Hebdo. La revue tchèque Plamen reprend ainsi des titres de Harakiri ou des dessins salaces de Reiser. Ce n'est pas innocent dans le contexte du régime communiste fondé sur un puritanisme de façade. De son côté, le pouvoir avait aussi utilisé la caricature comme instrument de propagande dans les années 50. Les journaux officiels, comme le Rude Pravo, s'acharnent avec violence sur les traîtres et autres fascistes, appellations rassemblant indifféremment sociodémocrates ou représentants de l'intelligentsia de la Première République. Parmi les cibles préférées du régime, Ferdinand Peroutka, journaliste et directeur dans les années 30 de la revue politico-culturelle Le Présent. En 1948, il s'exile aux États-Unis où il figure parmi les fondateurs de Radio Europe Libre. En 1951, sont créées les émissions tchèques et slovaques. Pour le PCT, c'est l'ennemi à abattre, au moins par l'image. et on aura droit à une série de caricatures sur le thème de Peroutka au micro de Radio Free Europe. Les variantes sont nombreuses. Les yeux bandés par un billet de 100 $, ou encadrés par un soldat américain, ou encore cachant par la fumée de sa pipe des bombes américaines. Bref, le parfait traître à la solde de l'impérialisme américain. Il y aurait sans doute une histoire de la caricature tchèque à écrire. Moyen direct, la caricature a en effet toujours été au cœur des problèmes contemporains. L'affaire actuelle des caricatures sur Mahomet est là pour le prouver.
Le programme en langue française de Radio Prague Onde Courte se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North